1973. Élise. Je viens de me réveiller quand on frappe à la porte. Une femme souriante dépose sur mon lit un plateau garni d'un petit déjeuner gargantuesque et ouvre les rideaux. Le soleil se déverse dans la chambre.
« Buon appetito, signora !»
lance-t-elle avant de sortir. Je me lève et me dirige vers la fenêtre. Le brouillard s'est dissipé. En bas, une ruelle pavée résonne sous les pas des badauds. Au pied de l'immeuble d'en face parsemé de volets verts, un homme joue de la musique avec des verres. Le tableau est nettement moins menaçant qu'hier. Je ne suis toujours pas décidée, mais l'urgence de fuir n'est plus aussi forte. J'enfile une robe, des baskets, et je pars à l'assaut de ma peur. La première chose qui me saisit, c'est le bruit. Il est différent ici, presque silencieux. Il me faut plusieurs secondes pour comprendre que ce qui change, c'est l'absence de voiture. Les voix se réverbèrent contre les façades blanches, l'eau clapote, les bateaux bourdonnent, les chansons flottent, les oiseaux roucoulent. Je débouche rapidement sur une immense place, que je reconnais aussitôt, la Piazza San Marco. Elle est impressionnante avec sa tour qui chatouille le ciel, le palais des doges et la majestueuse basilique. Les touristes euphoriques se prennent en photo au milieu des pigeons. Je me rends au centre de la place, fais un selfie et l'envoie aux enfants. Charline me répond immédiatement. « Trop de chance, il pleut ici. Profite, Mamoun. » C'est le déclic. Elle a raison, j'ai de la chance. Alors, même si je ne suis pas totalement sereine, même si je sursaute dès qu'on me bouscule, même si, à certains moments, la mélancolie me tient compagnie, je décide de m'offrir les clichés que j'imaginais. Je prends le Vaporetto. Je passe sous le pont du Rialto en gondole. Je sirote un spritz sur l'île de Giudecca. Je déambule en admirant les sublimes demeures le long du Grand Canal. Je mange deux glaces. Je monte au sommet du campanile. Je visite la basilique Saint-Marc. J'ai des ampoules plein les pieds quand dégringole le jour, mais je suis fière de moi. J'ai passé la journée à faire uniquement ce que j'avais envie de faire. Parfois, un étrange sentiment comme si j'avais oublié quelque chose surgissait avant de disparaître. Je n'avais que moi à contenter. Ce n'est pas désagréable, juste différent. Et cela ouvre le champ des possibles. Je suis capable de voyager seule. Je suis capable d'aller au cinéma seule. Je suis capable de vivre seule. C'est étourdissant, toute cette liberté qui s'offre à moi. Je rentre me doucher à l'hôtel avant d'aller dîner. Je trouve une table dans un restaurant pittoresque conseillé dans mon guide. Le serveur me place près de la baie vitrée qui offre une magnifique vue sur la lagune. Il parle un peu français et a visiblement envie de s'exercer. Aux antipastis, il me demande comment une ragazza aussi belle peut être seule. Aux spaghettis, il me demande si j'ai prévu quelque chose après. Au tiramisu, il me demande si je veux l'épouser. Je refuse et je commande une autre part. J'ai connu deux hommes après mon divorce. J'ai rencontré le premier au mariage de mon frère. Il était drôle et sensible. J'aimais sa compagnie. Mais je n'étais pas amoureuse. C'était 3 ans après ma séparation et je n'étais pas encore prête. Le second était un consultant intervenant dans mon entreprise. Charmant au premier rendez-vous, il est rapidement devenu exclusif. Il ne comprenait pas que je ne daigne pas faire garder mes enfants tous les soirs pour le voir. J'ai mis un terme à notre relation. Il m'a envoyé des messages pendant 3 mois, tantôt pour me déclarer son amour éternel, tantôt pour m'annoncer que je n'allais pas m'en sortir si facilement. Il a fini par se rabattre sur une autre proie. Trouver l'amour ne fait pas partie de mes projets. Peut-être qu'un jour je rencontrerai quelqu'un qui me donnera envie de partager mon tiramisu, ma brosse à dents et mes émotions, mais pour l'instant, je vais faire connaissance avec moi-même. 74. Lily. La maman des triplés est arrivée avec une 20aine de gâteaux. On s'en est étonné. Où trouvait-elle le temps de préparer autant de choses avec 2 bébés à la maison et un autre à l'hôpital? Elle a soupiré.
C'est simple, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Quand elle pleure, je ne dors pas à cause du bruit. Et quand elle ne pleure pas, je ne dors pas à cause de l'angoisse. J'ai des cernes tellement creusées que je peux y ranger des trucs. Alors je cuisine, quitte à être éveillée. Vous n'en voulez pas?
Ces pâtisseries étaient devenues l'attraction du service. Il y en avait toujours à disposition dans la salle des familles. Les autres parents et les membres du personnel venaient régulièrement s'en régaler, si bien qu'elle avait acquis un nouveau surnom, la maman au gâteau. Elle n'en était pas peu fière. Mes préférés étaient les labias, des sortes de beignets inondés de miel à la fleur d'oranger. Le papa de Milo a pris une corne de gazelle et l'a fixée, l'air extatique. « Ma femme sort demain », il a murmuré. On a fêté ça au jus de pomme. Il a ouvert son sac à dos et en a extirpé une chemise en carton. À l'intérieur, des dessins d'enfants. Il en a distribué un à chacune de nous. « Ma fille me pose beaucoup de questions sur vous depuis qu'elle vous a croisé l'autre jour. Et elle a voulu tout savoir sur vos bébés. Ce matin, quand je suis partie, elle m'a demandé de vous donner ça. » Maëlle avait écrit ton prénom en gros, une couleur différente pour chaque lettre. Tu avais un buste disproportionné et des jambes comme des lacets, debout entre deux bons hommes, sans doute ton papa et moi. On se trouvait dans un bâtiment carré sur lequel était inscrit « Nénonat » en lettres capitales. Au-dessus du toit, un arc-en-ciel nous protégeait de la pluie. La petite fille de 5 ans avait tout compris. On a passé un moment ensemble. Tu étais à nos côtés, endormie dans ton berceau sur roulette. Il avait la saveur des dernières fois. Un doux mélange de mélancolie et d'espoir. Ton papa est arrivé tard. Il s'était arrêté chez tes grands-parents. C'était la première fois qu'il les revoyait. Ils ont agi comme avec moi le jour où ils sont venus te voir, comme si rien ne s'était passé. Il n'a pas osé aborder le sujet. Ils ont pris de tes nouvelles, lui ont confié un nouveau doudou pour toi, se sont inquiétés de ma fatigue, ont suggéré de cesser l'allaitement afin que je reprenne des forces. En le raccompagnant à la voiture, ta grand-mère lui a soufflé qu'elle était désolée. Ses mots avaient dépassé sa pensée. Elle n'aurait jamais dû évoquer ma mère. Il l'a embrassée, soulagée. « J'espère qu'elle ne me poussera plus jamais à bout », elle a ajouté. Il m'a tout raconté, sans chercher à les protéger, sans se donner le beau rôle. Je le sentais ému. Il ne me lâchait pas les mains. Il avait prévu de rentrer tôt. Il avait une machine à faire tourner et les draps à changer. Pourtant, quand je me suis glissée dans le lit alors que tu venais de t'endormir, il s'est déshabillé et m'a rejoint. Il m'a serrée de toutes ses forces et a chuchoté. Quand j'ai vu mes parents, j'ai pris conscience que j'avais beaucoup de chance. Son souffle caressait mon cou. Il a marqué une pause, puis a poursuivi. « Ma famille, c'est vous. »